Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe. Car il s'était dit, s'ils devaient affronter les combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert, du côté de la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte, bien équipés. Moïse emporta les ossements de Joseph, puisque celui-ci en avait solennellement adjuré les Israélites en leur disant « Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur, alors vous emporterez mes ossements avec vous. » Les Israélites partirent de Soukhot et campèrent à Étham, en bordure du désert. L'Éternel marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse. Parle aux Israélites et dis-leur de revenir camper devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer. Vous dresserez vos tentes en face de Baal-Séphon au bord de la mer. Le pharaon pensera, les Israélites se sont égarés dans le pays. Le désert les tient emprisonnés. Je rendrai obstiné le cœur du pharaon et il se lancera à votre poursuite. Mais je manifesterai ma gloire à ses dépens et aux dépens de toute son armée. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les Israélites se conformèrent à ses instructions. On vint informer le pharaon que le peuple d'Israël avait pris la fuite. Alors le pharaon et ses hauts fonctionnaires changèrent d'avis à leur sujet et dirent « Qu'avons-nous fait là? En laissant partir les Israélites, nous avons perdu notre main-d'œuvre. » Le pharaon fit atteler son char et mobilisa ses troupes. Il choisit 600 de ses meilleurs chars qu'il fit suivre de tous les autres chars d'Égypte. Chacun d'eux était pourvu d'un équipage de 3 hommes. L'Éternel rendit obstiné le cœur du pharaon, roi d'Égypte, de sorte qu'il se lança à la poursuite des Israélites qui étaient partis librement. Les Égyptiens les poursuivirent donc et les rattrapèrent alors qu'ils étaient campés au bord de la mer. Tous les attelages du pharaon, ses hommes d'équipage, de chars et son armée les atteignirent près de Pi-Hahiroth en face de Baal-Séphon. Le pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens, car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. » Moïse leur répondit « N'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. » Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, tenez-vous tranquille. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. » De mon côté, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous. Alors, je manifesterai ma gloire aux dépens du pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses hommes d'équipage de chars. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'aurai manifesté ma gloire aux dépens du pharaon, de ses chars et de ses hommes d'équipage. L'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël passa derrière eux. Et la colonne de nuée se déplaça également de devant eux pour aller se tenir sur leurs arrières. Elle vint se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, elle était obscure, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Durant toute la nuit, aucun des deux camps ne s'approcha de l'autre. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est, qui refoula la mer, de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer sur la terre ferme, alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent avec tous les chevaux du Pharaon. Ses chars et ses hommes d'équipage de chars s'engagèrent après eux au milieu de la mer. Mais vers l'aube, l'Éternel considéra le camp des Égyptiens du haut de la colonne de fumée et de feu, et il sema le désordre. Il fit s'enliser les roues des chars, de sorte qu'ils n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant l'Éternel, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte !» L'Éternel dit à Moïse « Étends la main sur la mer, et que les eaux affluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur les hommes d'équipage. » Moïse étendit la main sur la mer, et au point du jour, la mer revint en place. Les Égyptiens qui battaient en retraite trouvèrent la mer devant eux, et l'Éternel les précipita dans la mer. Les eaux refluèrent et couvrirent les chars et les hommes d'équipage de toute l'armée du Pharaon qui s'était engagée à travers la mer à la suite des Israélites. Pas un seul d'entre eux n'en échappa. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec, pendant que les eaux formaient une muraille à leur droite et une autre à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens, et ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple eut de la crainte envers l'Éternel. Il eut confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Ici s'arrête notre lecture de la parole de Dieu. Un cliché de ce qu'on a appelé par la suite la guerre des six jours. En 1967, alors que le petit État d'Israël est dans la crainte face à la menace croissante de tous les pays qui l'entourent et qui craint peut-être un génocide qui va venir sur son peuple, décide, se retrouve dans une situation acculée devant une menace qui les dépasse et qui vont être sauvés d'une coalition nombreuse de plusieurs pays composés de la Jordanie, de la Syrie, de l'Égypte, les grandes puissances, en particulier l'Égypte. Et ils vont remporter une grande victoire en l'espace de 6 jours. 6 jours qui commencent par une attaque surprise sur toute l'aviation égyptienne qui est clouée au sol, et ils vont attaquer au petit jour, au petit matin, 19 bases aériennes, et au total ils vont abattre plus de 400 avions de l'armée égyptienne. Une situation complètement dingue et qui aura bien des répercussions par la suite dans tout l'équilibre de la région, mais une situation qui m'a fait penser à cette situation où on voit le peuple d'Israël qui est complètement acculé face à une menace qui le dépasse et face à la mort en fait, en face. Ils ont la mort en face, c'est ça qu'ils ont concrètement. Et c'est ça qui explique tout ce qu'on lit dans ce texte et leur réaction, et on va y revenir. Dans ce texte ici, on voit Israël qui est coincé entre la mer d'un côté et l'armée égyptienne avec toute son armada qui est juste derrière. Et Israël, le peuple de Dieu, va connaître une délivrance complète. Une délivrance complète. Et tout cela commence alors que Dieu décide de les emmener par un chemin qui n'était pas prévu. Le texte nous dit au début, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe. On voit probablement dans le petit 1 près de Ramsès, la région, ou en tout cas Goshen en dessous, où pouvaient être les Israélites en Égypte. Et puis, au lieu de prendre pour aller en Canaan, la route, finalement, le long de la mer, cette route des Philistins, Dieu les fait partir vers le sud, vers la route du désert. Il leur fit faire un détour par le chemin du désert. Verset 18. L'Éternel conduit son peuple. Je suis avec vous. Dieu conduit son peuple, mais pas par le chemin le plus direct. Première chose qui doit nous étonner dans ce récit. Et la raison est la suivante, c'est que Dieu sait mieux que le peuple ce qu'il doit faire. Qu'il a des projets pour lui. Combien de fois ça peut nous arriver dans notre vie que Dieu ne nous fait pas prendre le chemin le plus direct, nous fait prendre un chemin qu'on n'avait pas pensé. Je me souviens de Laurentine la semaine dernière qui disait comment elle s'est retrouvée un jour en face de ce panneau où Dieu a voulu qu'elle passe par ici, qu'elle tombe devant le panneau Église protestante évangélique. Elle est plantée là parce que Dieu il veut qu'elle prenne ce chemin-là. Il veut l'emmener quelque part. Dieu conduit son peuple hors d'Égypte. Et alors qu'on connaît ce qui s'est passé juste avant et tous ces fléaux ont atteint l'Égypte et finalement le peuple est libéré, c'est le début d'une grande délivrance. Et on s'aperçoit, si on regarde en arrière dans le texte biblique, que Dieu accomplit ses promesses. Et le texte ici en rend témoignage parce que on voit que Moïse et les Israélites emportent les ossements de Joseph. Joseph a demandé qu'on emporte ses ossements quand le peuple quitterait l'Égypte. Joseph, autrement dit, n'avait pas oublié les promesses faites à ses ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Promesses peut-être lointaines, mais il les avait toujours auprès de lui, quand bien même il était bien installé en Égypte. Il avait une position suprême en étant le bras droit du Pharaon. Il a fait venir toute sa famille, il était bien installé. Mais il n'a pas oublié les promesses. Il a dit, ici, c'est une étape. Et un jour, vous allez sortir. Vous emmènerez les ossements dans le pays que Dieu vous a promis. Il n'a pas oublié les promesses de Dieu. Et le Nouveau Testament rend témoignage en nous disant que c'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie d'Égypte des descendants d'Israël et a donné des instructions au sujet de ces ossements. Est-ce qu'on est autant attentif aux promesses de Dieu ? Parfois peut-être lointaines. Est-ce qu'elles animent notre vie? Est-ce que lorsqu'on va aller de l'avant, on aura toujours ces promesses dans notre cœur? Ce qui est sûr, c'est que Dieu est là. Dieu conduit son peuple par un autre chemin, certes, mais il est là. Le texte nous dit l'Éternel marchait à leur tête. Le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. De jour et de nuit, Dieu est là. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence, au cas où on n'aurait pas compris, en permanence à la tête du peuple. Si Dieu ne veut pas prouver sa présence à leur côté, il me faisait penser à ce psaume qui dit « Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. » Dieu conduit son peuple. Et c'est encore lui qui conduit l'histoire jusqu'ici et pour toujours. Il a toujours le même projet qu'il avait évoqué à Moïse dans cette série de fléaux, faire éclater sa gloire par ses grands actes de salut. On en était resté la semaine dernière à la dixième plaie, le dixième fléau qui vraiment fait déborder la goutte qui fait déborder le vase pour les Égyptiens et qui laisse partir. On s'est dit, c'est bon, c'est fait. Mais non, le pharaon et ses sujets insistent. On les voit revenir sur leur décision, comme Dieu l'a déterminé. L'Éternel dit, le pharaon pensera, ah, ils se sont perdus, et il va venir à votre poursuite. Dieu le sait, Dieu l'a déterminé. Et il dit même, je rendrai obstiné le cœur du pharaon. Il se lancera à votre poursuite, mais moi je manifesterai ma gloire. Il a toujours ce projet de manifester sa gloire et il va continuer de le faire. Alors le peuple se retrouve ainsi pris en étau, bien compressé comme il faut. D'un côté la mer, de l'autre l'armée égyptienne. Et alors, ils furent saisis d'une grande peur. Ils poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Ils se tournèrent contre Moïse. Et Dieu va leur dire, n'ayez pas peur. Par Moïse. Qu'il coule, je suis là. Dans ce moment d'adversité, la peur envahit le peuple. Et combien de fois, dans des moments difficiles, on peut oublier que Dieu est là. Il est pourtant juste à côté. Comme dans ce texte, dans la nuit, de jour, de nuit, il est en permanence avec Israël. Mais on oublie qu'il est là, juste à côté, parce qu'on est face à quelque chose qui est insurmontable. on est coincé. Et quand ça arrive, on peut développer des raisonnements complètement absurdes. Du type, c'était mieux avant. La peur, c'est un sentiment très puissant. Dans un film de mafia, il y a un homme mafieux qui discute avec un autre et il lui dit « Je préfère que les gens me craignent plutôt qu'ils m'aiment, parce que la peur est plus forte. » La peur, c'est un sentiment très fort, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il dit. Mais elle est tellement forte qu'on peut un peu perdre les pédales. Et les Israélites disent « Mieux valait être en Égypte, c'est pire maintenant !» Plus tard, ils continueront avec ce genre de raisonnement. Dans le désert, les Israélites regretteront les légumes et les fruits de l'Égypte. Je vais vous lire un extrait dans le livre des Nombres. Les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande, nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail. À présent, nous dépérissons, nous sommes privés de tout, rien que de la manne, toujours de la manne. » Ils sont pressés, hein, tous les fruits et les légumes. Mais vous comprenez avec ces paroles-là que dans l'adversité, notre regard peut être complètement faussé. Complètement faussé. Et dans l'adversité, parfois, dans le chemin de la vie chrétienne, qui n'est pas toujours facile, on peut avoir des moments comme ça. Tu es devenu chrétien et maintenant peut-être que tu rencontres des conflits avec ta famille. Peut-être tu es incompris par des amis, des voisins, des collègues. Tu rencontres des épreuves diverses et variées. Et parfois, tu aurais presque la nostalgie de revenir à ta vie d'avant. Avant, c'était plus facile. Je faisais un peu ce que je voulais. Mais là, il y a une grave erreur de jugement. Il y a une grave erreur de jugement. Non, c'était pas mieux avant. Parce que avant, tu étais esclave. C'était pas mieux avant. Ils étaient esclaves en Égypte. Tu as oublié tes concombres. À quel prix tu les mangeais, tes concombres, ton ail, tes melons. T'étais esclave. Et pour nous aujourd'hui, quand on regarde en arrière et qu'on peut avoir des moments de nostalgie où c'était plus facile, mais t'étais esclave. T'étais esclave des passions de ton cœur, de ce qui t'emmenait à déshonorer Dieu, à agir mal. Tu étais esclave. Donc c'était pas mieux avant. Ton regard est faussé. Regardez jusqu'où va le raisonnement. Dans la crainte, les Israélites déclaraient à Moïse, au tout début de cette phase où Moïse vient demander la libération du peuple, on voit le pharaon qui intensifie les travaux sur eux pour les faire craquer et les faire se retourner contre Moïse. Et à ce moment-là, effectivement, les Israélites s'étaient retournés vers Moïse en disant « Laisse-nous tranquille, on veut être esclaves des Égyptiens. » Là, c'est de pire en pire. On a presque l'impression que les Israélites, ils sont en train de sombrer dans une sorte de syndrome de Stockholm. Ce syndrome où des gens peuvent avoir des sentiments sympathiques envers des gens qui sont leurs bourreaux ou des preneurs d'otages, etc. On a presque l'impression qu'ils sont en train de dire « Les Égyptiens, c'est des gens sympas, en fait. » Mais non, tu débloques. Ils sont pas sympas du tout. Donc on voit les Israélites qui, comme nous, parfois perdent un peu les pédales. Et la réponse de Dieu par la voix de Moïse, et elle retentit tellement de fois dans la Bible. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. Remarquez encore ce que produit la panique pour le peuple. C'est qu'il ne manque pas de trouver un bouc émissaire. Moïse. Et aussi, on sait trouver des boucs émissaires quand ça ne va pas. Ça peut être Dieu, ça peut être une autre personne. Et on a une sorte de réaction en chaîne, un peu comme ce patron qui met la pression sur monsieur qui vient, qui met la pression sur madame qui met la pression sur sa fille, Et la fille qui met la pression sur son chat, qui a détricoté la pelote de laine. On a cette réaction en chaîne, ici. Tu es coincé, et tu accuses Dieu. C'est la peur qui fait déraper, qui fait paniquer. On l'a vu il y a quelques jours encore. Juste une histoire de pénurie d'essence. Vous voyez ce que ça peut donner comme tension, parfois comme violence, comme trouble, comme acte délictueux. Et Moïse aussi, il est coincé. Il est sacrément coincé. Il y a toute l'armée égyptienne derrière, et il y a aussi le peuple qui se retourne contre lui. Et Moïse aussi, il a peur. Et donc Moïse, il prend la pression. Et complètement dingue de dire ça ici. Mais l'Éternel lui dit, pourquoi tu me cries dessus? Reste tranquille, je contrôle la situation. Et Dieu poursuit en lui donnant des instructions à suivre. Dieu donne encore ses instructions comme il l'avait fait à tous les moments lors des fléaux. Et ces instructions, il faut les suivre. Point. Je donne les instructions, tu suis. Vous vous souvenez avec ce sang de l'agneau? Cet agneau, il devait être pur et sans tache, il fallait le conserver jusqu'au 14e jour, il fallait ceci, cela, manger avec les herbes amères, le pain sans levain. Il fallait suivre les instructions. Si tu voulais avoir la vie sauve, Dieu donne les instructions, il faut obéir. Est-ce qu'on ouvre nos oreilles quand Dieu nous donne des instructions? Parce que des instructions, on en connaît plein. Si vous avez déjà parcouru la Bible, vous avez peut-être un chemin avec Dieu depuis des années. Mais est-ce qu'on obéit aux instructions que Dieu nous a données? Les Israélites regrettent, ont peur, ils ont peur d'avancer, ils ne savent pas comment avancer devant la mer. Ils ont peur de perdre quelque chose, le dernier truc qui leur reste, la vie. Et donc, ils pensent au melon d'Égypte, mais ils étaient esclaves. L'être humain, en général, a peur du changement. Des experts qui ont remarqué que l'être humain, pour lui, la peur de perdre quelque chose est plus fort que la possibilité de gagner quelque chose. Donc, l'être humain préfère le statu quo, on change rien, on bouge pas, plutôt que de prendre un risque alors qu'il pourrait y gagner quelque chose de plus grand. Peut-être que c'est un peu le cas pour nous aujourd'hui, que Dieu nous appelle à sortir de notre Égypte, d'un esclavage, et tu réalises que tu crois que tu es libre alors qu'en fait tu ne l'es pas. Et peut-être que ça nourrit de la peur, de la crainte, peur du risque, peur d'y perdre, peur des épreuves éventuelles à venir. Mais Dieu nous dit, te dit, n'aie pas peur. Avance vers moi, crois, écoute, obéis. Tu n'as rien à craindre. Je vais tracer le chemin. L'Éternel délivra. Israël vit. Petite histoire. Romuald revient du club biblique pour les enfants. Qu'as-tu appris aujourd'hui? Demande son père. On nous a raconté qu'un jour, Dieu a envoyé Moïse derrière les lignes ennemies pour sauver les Hébreux pourchassés par les Égyptiens. Et quand ils sont arrivés à la mer Rouge, Moïse a demandé aux ingénieurs de construire un pont de bateau. Ils ont tous traversé la mer sur ce pont. Et quand ils sont passés de l'autre côté, ils ont vu venir les blindés égyptiens. Alors Moïse a vite envoyé un message radio à son QG pour que des bombardiers fassent sauter le pont et pour sauver les Hébreux. Et voyons, Romuald, c'est vraiment comme ça qu'on t'a enseigné ce récit? Pas tout à fait en fait, mais si je te racontais l'histoire comme elle l'a racontée, tu ne croirais jamais. Un texte adapté d'un petit bouquin qui donne des anecdotes au sujet de la Bible, reflet de la vérité. Alors, est-ce que c'est une délivrance miraculeuse? Tu pourrais pas le croire, papa, si on te racontait cette histoire. Certains ont essayé de donner des explications rationnelles diverses et variées, notamment des fléaux en Égypte, et puis jusqu'à l'ouverture de cette mer. Alors, oui, en général, les eaux ne peuvent pas former des murs à la verticale. Normalement, les lois de la physique, ça ne fonctionne pas. Et on est tout à fait d'accord là-dessus. Normalement, ça ne marche pas comme ça. Mais Dieu fait ce qu'il veut. À combien plus forte raison lorsqu'on considère Jésus ressuscité? En général, les morts ne sortent pas de leur tombe. On est d'accord. Mais si c'est Dieu qui redonne la vie, il peut redonner la vie. Et Jésus est réellement ressuscité, et nous le croyons parce qu'on a des témoignages fiables, de témoins oculaires, et que tout ceci a été mis par écrit pour nous jusqu'à aujourd'hui. Et l'Église n'existerait pas si Jésus n'était pas ressuscité. Tout ça, ça serait tombé. Alors c'est complètement dingue de penser que Dieu a ouvert une mer. Est-ce que c'était la mer des roseaux, la mer rouge, un lac, etc. Je vous passe les détails, les questionnements, parce que c'est très difficile de localiser exactement, même avec les noms qu'on a ici, pour des localités d'il y a 4000 ans. Mais nous croyons l'incroyable par la foi, parce que rien n'est impossible à Dieu. Alors il faut la foi pour le croire. Peut-être aujourd'hui ça vous semble étrange. Ce jour-là, l'Éternel a miraculeusement délivré Israël de l'armée égyptienne. Et c'était tellement incroyable qu'ils n'ont jamais oublié. Jamais ils l'ont oublié. Ils se sont rappelés ces événements encore et toujours. Vous vous souvenez, on avait dit, lorsque les enfants posent la question à leurs parents israélites, « Mais qui est l'Éternel ?» Je vais t'expliquer qui est l'Éternel. On était esclaves en Égypte. Et ils commencent à raconter l'histoire. C'est là que ça commence, c'est là qu'ils ont découvert réellement qui est l'Éternel. Donc oui, c'est tellement fondé dans leur histoire que les prophètes, les psaumes vont sans arrêt rappeler ces événements-là. Ils sont fondateurs. Voilà notre Dieu. Voilà sur qui on s'appuie. Voilà pourquoi on est en train de célébrer cette fête. Voilà pourquoi on fait la Pâque. Voilà pourquoi le septième jour, on s'arrête. Etc, etc. Tout cela est ancré parce que c'est arrivé dans l'histoire d'Israël. Moïse étendit la main sur la mer, après qu'il soit passé à pied sec, la mer se précipita sur l'armée égyptienne qui était embourbée. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens et ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. Alors ça peut un peu sembler cruel aux lecteurs non avisés, mais souvenez-vous, au début de notre livre de l'Exode, ceux qui voulaient noyer les premiers-nés mâles des Israélites, bien ce sont eux qui vont finir noyés dans la mer. Parce que Dieu est juste et le mal doit être puni. Vous savez, quand il y a un tyran qui meurt, c'est la joie. Il y a quelques années, on a eu en Libye notamment, Kadhafi, lorsqu'il est mort, après 42 ans de dictature. Mais c'était la joie. On est content quand Dieu fait justice sur le mal. C'est normal. Et nous sommes appelés à aspirer à la justice, parce que Dieu aime la justice. Et lorsqu'il exerce ses actes de jugement juste, eh bien, nous pouvons nous réjouir. Dieu a accordé une complète délivrance en exerçant son jugement, et il s'est ainsi révélé à l'Égypte et à son peuple. Moïse avait dit « Tenez-vous là ». Et regardez, et à la fin du texte, ils virent. Ils virent le cadavre des Égyptiens. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le peuple eut de la crainte envers l'Éternel. Il eut confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Dieu s'est glorifié par ce grand acte de salut. Le peuple a été fortifié dans sa foi et il s'est tourné vers l'Éternel pour l'adorer et pour le remercier. Et lorsque Dieu agit, lorsque Dieu se révèle dans son amour et sa puissance, il n'y a pas d'autre réaction appropriée que de l'adorer. que de reconnaître sa personne, que de s'y soumettre, que de le suivre. Vous savez, lorsque les disciples de Jésus l'ont vu, l'ont rencontré, l'ont touché alors qu'il était ressuscité, après que Dieu ait manifesté sa gloire et sa puissance, ils l'ont adoré. Cette mer qui s'ouvre, Dieu qui délivre. Il y a plus dans le texte biblique, cette complète délivrance d'Israël annonce en effet une plus grande délivrance. Jésus s'est plongé dans l'eau du Jourdain pour y être baptisé, pour marcher sur les traces de son peuple, Israël, pour frayer un nouveau chemin. Dans la Bible, l'eau symbolise souvent le jugement. Et Jésus se plonge délibérément dans le jugement. Lui-même présente sa mort comme un baptême. Dans l'évangile selon Marc, chapitre 10, verset 38, il dit à ses disciples, « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ?» Ce baptême de la mort à la croix, les eaux du jugement. La croix, c'est ce moment où les eaux du jugement ont submergé Jésus. Tous les flots de la haine, du mal, du péché dont nous sommes responsables se sont abattus sur lui. Et il a agi ainsi pour frayer un chemin, parce que 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Il est revenu de la mort et il a acquis pour nous le salut du jugement. Ce passage de la mer Rouge nous donne donc ici un avant-goût de ce que Dieu a fait plus tard par Jésus, en mieux et en plus grand encore. Jésus a subi les eaux du jugement pour que nous soyons sauvés. Amen. Alors certains se sentent peut-être aujourd'hui coincés comme les Israélites et dans l'attente d'une délivrance. Un boulot peut-être qui ne vient pas, un logement à trouver, un problème de santé qui perdure, une vie de couple qu'on doit reconstruire, un parent qui refuse de s'approcher de Dieu, etc. Et peut-être tu es tenté de baisser les bras et que parfois tu cries contre Dieu, tu paniques, tu raisonnes mal. La réponse de Dieu, toujours la même dans toute l'Écriture. N'aie pas peur. Il serait bon d'aller regarder le nombre de fois où Dieu prononce ses paroles et dans la bouche de Jésus aussi. N'ayez pas peur. Tiens-toi tranquille. Comme le remarque Tim Chester dans son commentaire sur l'Exode, se tenir tranquille, ça ne signifie pas que Dieu nous demande d'abdiquer, de nous dérober à nos responsabilités et de plus rien faire. Nous continuerons d'assumer notre part de responsabilité, mais nous devons laisser le reste à Dieu. Or, nous avons un problème. Nous prenons souvent des responsabilités qui ne sont pas de notre ressort. Il propose différents exemples. Je suis responsable de ma qualité de parent, mais je ne suis pas responsable des choix de mes enfants grands. Je dois laisser cela à Dieu et me tenir tranquille. Je suis responsable de mon statut d'employé, mais je ne suis pas responsable des actions de mon patron. Je dois laisser cela à Dieu et me tenir tranquille. Je suis responsable de faire connaître l'Évangile aux autres, mais je ne suis pas responsable de leur salut. Je dois laisser cela à Dieu et me tenir tranquille. Finalement, je suis responsable de mon propre péché, certes, mais je ne suis pas responsable d'acquérir mon pardon. Je dois aussi laisser ça à Dieu et me tenir tranquille. Fin de citation. Il y a ma part, ma responsabilité, la part de Dieu. Ne nous prenons pas pour Dieu. N'essayons pas de faire ce qui appartient à Dieu. Combien de fois on le fait ? on veut gérer cette partie-là. Cette partie-là, elle appartient à Dieu, pas à toi, pas à moi. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, tenez-vous tranquille.
Merci Seigneur.
Tenez-vous tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. Persévère. Prie. Obéis. Tiens bon. N'aie pas peur.